Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Valérie Namias, conseillère de Paris, membre du groupe UDI. Vous êtes également élue du 17e arrondissement, conseillère déléguée à l'innovation publique et à l'accueil des nouveaux habitants. Vous êtes par ailleurs chargée du conseil de quartier Batignolles-Cardinet. Bonsoir.
Bonsoir, merci de votre accueil.
Valérie Namias, nous évoquerons tout à l'heure quelques dossiers parisiens et les élections municipales de 2020. Mais d'abord, j'aimerais vous interroger sur les initiatives du gouvernement après la crise des Gilets jaunes. En janvier aura lieu le grand débat national qui commencera d'abord dans les mairies, chargées de recueillir les doléances des Français. Le gouvernement a précisé que ce débat ne serait pas l'occasion de rejouer l'élection présidentielle ou de détricoter les réformes mises en place par Emmanuel Macron. Vous, qu'est-ce que vous attendez de cette grande consultation nationale ?
Alors, vous avez dit un mot très juste, enfin une phrase très juste. Ce n'est pas l'occasion de rejouer les élections présidentielles, mais on rejoue les élections présidentielles. Réellement, ces élections se sont passées, on ne va pas y revenir, mais d'une façon un peu exceptionnelle, avec un candidat pris à défaut sur certains sujets, qui fait qu'un autre a émané avec des qualités qui font qu'il est arrivé où il en est. Mais c'était une élection qui a été un peu... pas bafoué, mais pas comme ce qu'on connaît d'habitude, où il y a eu un vrai, où il y aurait dû avoir un vrai débat de fond sur des sujets de société. Les sociétés évoluent, des changements sont très forts, surtout on parlait à l'instant, juste avant, hors antenne des nouvelles technologies. Les changements sont très forts et ces débats étaient nécessaires, ils n'ont pas eu lieu. Il est arrivé au pouvoir, il a imposé par la suite tout un ensemble. Alors quand je dis imposé, vous allez me dire, je me suis présenté aux législatives, c'est un peu fort de dire imposé, mais c'était un peu le cas, ça a été un rapt démocratique.
Vous étiez candidate aux législatives à Paris. C'est En Marche qui a gagné face à vous.
Exactement. C'est Monsieur Guérini, qui d'ailleurs maintenant est devenu le responsable du mouvement En Marche, qui a gagné. Je me suis bien battue. Hein. C'était, on va dire, si on peut se permettre de le dire, une belle défaite ou pas une trop mauvaise. Pas une trop mauvaise défaite, puisque c'était à 17 000, 10 000 voix contre 17 000. Donc, je me suis quand même assez bien battue.
Mais il y a eu une vague en marche, clairement.
Évidemment, sur toute la France. Donc, vous avez des personnes qui n'ont pas d'expérience politique, qui viennent pas nécessairement toutes, parce que j'aime bien le côté « on vient du monde civil ». Mais moi aussi, je viens du monde civil, vous venez du monde civil. Enfin, je veux dire, on vient tous du monde civil. Moi, j'ai à côté aussi une activité professionnelle. Donc, je veux dire, il n'y a pas de plus ou de moins. Mais on a dit « on va prendre des gens qui... » n'ont pas cette expérience, ce background politique, et on va faire en sorte qu'ils soient élus. Pourquoi pas ? Je veux dire, l'idée peut être belle sur le départ, mais le fait est, c'est que c'est pas simple. Moi, je le vis au quotidien avec tous mes amis élus, c'est extrêmement difficile. Est-ce que c'est un métier ou pas ? On peut en discuter, mais le fait est que c'est une mission, c'est un travail qui demande énormément de compétences, de qualité, d'acharnement, d'engagement sur les horaires, sur sa vie familiale qu'il faut parfois sacrifier, et puis de connaître aussi comment tout cela fonctionne. Et aujourd'hui, on voit qu'on a des députés qui ne sont pas au fait des dossiers, qui ne sont pas... et pourtant ils doivent représenter, enfin je veux dire, ils représentent la nation française. Vous ne pouvez pas vous permettre d'aller dans des radios, dans des télévisions et ne pas savoir combien coûte le SMIC. Entre autres, enfin, je veux dire, je ne suis pas là pour rejeter la faute sur une personne, parce qu'à la limite, ce n'est pas sa faute réellement, c'est le fait qu'on a voulu mettre au devant tout un ensemble de personnes qui sont là à écouter toutes les paroles du président, Monsieur Macron. Aujourd'hui, nous avons une crise majeure, une crise de fond, je dirais, parce que pour moi, le mouvement Gilets jaunes, c'est comme une alerte, vous voyez, cette lumière, c'est bien joué. En fait, le symbole du Gilet jaune est pour moi très bien joué. C'est une alerte de dire attention, au secours, ça ne va pas du tout. Il y a des points qui sont positif, si je puis me permettre, et je vais après...
On a le temps, Valérie Namias.
Parfait. Je pourrais un peu étayer mon propos sur qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce mouvement, et puis des points extrêmement aussi négatifs.
Alors, le côté positif, on va commencer par le positif.
Alors, le côté positif, on entend toute une population qui était silencieuse. Je veux dire, moi, j'ai commencé la politique, j'avais 18 ans, parce que, vous voyez, on a autour de nous des jeunes qui sont du collège de 3e, qui font leur stage ici. Et je trouve ça magnifique que vous soyez là, que les gens s'investissent. Enfin, vous allez me dire, c'est dans le cadre de leur stage. Mais quand même, par rapport à les questions qu'on a pu se poser juste avant l'émission, on sent que ce sont des jeunes qui sont investis. Ce qui manque, c'est ça. C'était une sorte d'engagement et d'investissement. Les gens, peut-être, vous allez me dire, n'ont pas le temps, trop de difficultés de la vie de tous les jours. C'est un poids quand même en France. On en reparlera ça aussi. Et du coup, on n'a peut-être pas le temps de s'investir et de s'engager.
Donc, le point positif, c'est la prise de parole de Français et qui vivent des difficultés et qui, pour la première fois, ont pu les exprimer. Il y a des manifestants qui n'avaient jamais manifesté
Exactement.
Leur vie.
Exactement. Mais quand je vois des retraités de 70 ans, ça me... presque, je le dis, à version sud de la France, mais ça me fend le cœur. Je me dis, mon Dieu, à 70 ans, tu vas sur les routes et tu exprimes tes problématiques. Toute cette partie, c'est de dire, ok, parfait, maintenant, le citoyen est là, s'engage, se manifeste et dit, nous, écoutez-nous, voici nos difficultés. Ça, c'est un point très positif. Il y a un autre point aussi positif qui est une conséquence de tout ça, c'est que des gens se sont retrouvés. Il y a un côté un peu café de commerce qu'on avait oublié, qui est en train de se créer, hors des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, je les utilise constamment et j'adore ça, mais il y a les méfaits des réseaux sociaux avec tout le monde qui a la parole. Excusez-moi, mais tout le monde ne peut pas être entendu. Il y a des choses qu'on ne devrait même pas écrire. Et moi, je sais, des fois, spontanément, j'ai envie de dire des choses, je me retiens en disant, attention, réfléchis à ce que tu dis. Alors peut-être c'est par fonction qui m'oblige à ça. Et donc, du coup, les gens ont une liberté de parole qu'ils ne devraient pas avoir parce que du coup, ils ont un public qui les écoute. Et le public, parfois, il y a des extrêmes ou des gens qui n'ont pas réfléchi à la situation. Bref, mais quand même, il y a cette côté où on se manifeste, on existe et on veut faire valoir nos droits. Parfait. Enfin, nos envies, nos ambitions pour la France. Tout ça, ce sont des côtés positifs. Surtout qu'il y a des doléances qui sont réellement à écouter. Ils ont raison sur certains points.
Sur le pouvoir d'achat, notamment.
Alors, oui, sur le pouvoir d'achat. Oui, sur les problématiques. Je vis à Paris et on ne peut pas le dire. On est quand même des privilégiés sur... les transports, le métro, même si on va reparler sur la vie municipale, il y a quand même des choses à
dans
améliorer.
La deuxième partie
mais
de
globalement,
émission.
On a quand même le métro, on a quand même le tramway, on a quand même les bus, on a quand même tous les services qui sont à proximité. Vous êtes maman, vous avez les hôpitaux, vous pouvez une maternité, vous avez tout ça à côté. Quand vous habitez dans une campagne où vous devez faire 80 km pour accoucher, que vous êtes au 7e ou 8e mois, que vous allez faire une échographie, ce n'est pas possible, ce n'est pas entendable. Donc, vous n'avez pas de service de la poste, vous avez des personnes isolées, personnes âgées. Bon, toute cette tout ça est à entendre. Oui, je pense que toute cette partie est positive. Là où le bât blesse, où la difficulté de ce mouvement, c'est que d'abord, il y a une disparité de mouvement même dans les doléances. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont demandées qui sont totalement paradoxales. Plus de services publics, on veut plus, donnez-nous. Mais à côté de ça, on ne met pas en valeur tout ce que l'État fait déjà. Et on fait partie quand même des pays... où il y a un service social qui est quand même le plus important dans le monde. Mais il faut quand même le souligner. D'ailleurs, il y avait, j'écoutais à la radio, il y avait une auditrice qui a en quelques minutes dit « Mais attendez, regardez tout ce que vous avez, le RSA, je ne veux pas tous les énoncer, mais vous avez quand même un ensemble de services, puis moi qui suis en mairie, je le vois, des gens qui viennent. Si vous voulez ne pas dormir dans la rue, vous pouvez avoir des aides, même si elles sont contraignantes, même si... Mais quand même... Il existe une base qui fait qu'on vous aidera et on sera là. L'État, quand même, est là. Ça, ils l'ont oublié de le souligner. L'aide, les services, enfin, je veux dire, la maladie, les médicaments qui sont quand même roses. Même s'il y a beaucoup de défauts, il faut quand même avoir l'honnêteté de dire on est quand même dans un pays où on est aidé. Mais pas équitablement, pas suffisamment aux bons endroits. Voilà, il y a des choses qui sont améliorées.
Il y a aussi une partie des Français qui se sentent oubliés. Vous avez parlé de la France périurbaine, des personnes qui sont à la campagne. Puis il y a aussi la classe moyenne qui a le sentiment de ne pas exister. C'est-à-dire que c'est une classe moyenne qui paye des impôts et qui a l'impression qu'elle ne reçoit pas de services en échange.
Alors, la classe moyenne, oui, vous avez raison, mais elle est extrêmement large, la classe moyenne. Vous et nous faisons partie de la classe moyenne. Alors, quand vous avez Hollande qui dit à 4000 euros, on est riche, monsieur Hollande, pardon, c'est un peu gros de vous permettre de dire ça. Quand vous voyez que la moyenne des loyers dans le privé sur Paris est de 2500 euros, 4000 euros, nous ne sommes pas riches. Vous voyez ce que la difficulté là, c'est que la classe moyenne est très large. Et effectivement, c'est la classe moyenne qui a le moins d'aide et qui subit le plus en impôts et en autres. Alors, je n'ai pas, parce que je ne suis pas parlementaire et je n'ai pas ce pouvoir, mais moi, ma vision, c'est d'avoir une vision pas égalitaire, même si c'est sur notre fronton. Pour moi, l'égalité, elle est en droit et en devoir. On doit tous avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs, mais
l'équité,
elle n'est pas égalitaire.
L'équité plus
Exactement.
Que l'égalité.
Exactement. Je suis sur l'équité, parce que c'est relatif. Vous n'avez peut-être pas nécessairement les mêmes besoins que moi. Vous allez me dire, moi, je n'ai pas besoin d'avoir une voiture, donc d'avoir l'aide pour une voiture. En revanche, aidez-moi pour un vélo, aidez-moi pour les transports. Mais qui dit aide, dit qu'est-ce que vous vous donnez à la société? Ce n'est pas normal qu'il n'y ait que 50% qui payent des impôts. Moi, je dis que l'impôt devrait être payé par tout le monde, même si c'est l'euro symbolique. L'impôt devrait être payé par tout le monde. Ça, c'est un exemple. Autre chose, c'est que, et c'est un point important que je voulais développer, même si ce n'était pas la question, c'est que le problème de la France, et qui fait qu'on arrive à ces mouvements, c'est qu'on a une France qui est figée, un immobilisme qui est, que je sens, moi, en tant qu'entrepreneur, à mon niveau. Mais je vois qu'il y a une inertie française qui est due à trop de normes, trop de lois. On légifère sur tout le temps. On va légiférer sur les fessiers, on va légiférer sur les autres. Enfin, je veux dire, on légifère sur tous les sujets. Sur le plan économique, sur le plan financier, c'est extrêmement difficile. Je vois des gens qui viennent. Alors oui, c'est la mode des startups et moi, je les aide dans ce que j'entreprends. On pourra parler des associations que j'ai ou dans les projets que j'ai. J'aide énormément. Mais à part certains qui arrivent parce qu'ils touchent à tout ce qui est nouvelle technologie, d'autres ont des idées fabuleuses, mais ils n'y arrivent pas. Donc du coup, ils abandonnent, ils vont au chômage. Qu'est-ce que c'est que ce système ?
Et ils n'y arrivent pas parce que la France est un pays trop administratif ?
Alors, il y a plusieurs sujets qu'on pourrait développer ensemble. Déjà, ce n'est pas inhérent ou immédiat, c'est depuis une vingtaine d'années que les choses se sont amplifiées. Il y a une inertie, c'est-à-dire que c'est même dans notre état d'esprit. Quand vous avez une personne, quel que soit son âge, parce que pour moi, la jeunesse n'a pas d'âge. Vous pouvez avoir une personne qui a 50 ans ou à 70 ans, a un projet ou une idée, parfait. On va en être là et on va aider. Mais aider n'est pas assister. Aider, c'est de dire, voilà pour moi, enfin pour nous, la France, quels sont pour nous les moyens que tu as pour y arriver. Mais à toi de jouer, à toi de bouger. Le problème, c'est qu'on nous a, nous le peuple, nous tous, même si je suis élue, mais je suis aussi citoyenne avant tout, on nous a endormis. Endormis par des aides sociales, si je puis me permettre. On nous a endormis par un système français qui dit « Bon, calmez, restez tranquilles, mesdames et messieurs, nous, on veille sur vous. » Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que quand on a un peu moins d'aide, ben, finalement, peut-être on va se réveiller parce qu'on ne veille pas tant que ça sur nous, parce qu'on a de plus en plus de difficultés et on a une inertie où on a un plafond de verre qui fait qu'on n'arrive pas à évoluer ou à grandir, que ce soit sur le plan financier ou tout autre.
Valérie Namias, les quatre grands thèmes retenus par le gouvernement pour ce débat national sont la transition écologique, la fiscalité, l'organisation de l'État et la démocratie et la citoyenneté. Sur ces sujets, il faut tout remettre à plat. Il faut qu'on change de modèle de société, même si vous saluez notre système social qu'il faut préserver.
Alors, je salue le système social. Est-ce que j'irai le dire à le préserver? Je n'irai pas jusque-là. Je le salue parce que moi, alors, je suis de centre droit. C'est-à-dire ma vision intime, hein, ce sont mes convictions personnelles que j'ai eues d'ailleurs très tôt, puisqu'à 18 ans, je me suis lancée en politique, c'est de me dire la liberté. Rester dans cet esprit de liberté et dans cette esprit d'initiative. Sois libre de pouvoir créer, de pouvoir initier, de pouvoir mettre en place seul ou en groupe. Et là, l'État doit mettre en place de te donner les leviers pour y arriver. La limite de tout ça, c'est une limite sociale ou sociétale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que toi, tu as les moyens physiques, intellectuels, financiers d'y arriver, parfait. Si tu ne les as pas, on t'aide par des formations, par des aides éventuelles financières, par des aides matérielles, mais à minima, en effet de levier et pas en totalité. Sinon, vous êtes en inertie ou en immobilisme. Autre chose, c'est si vous n'êtes pas en capacité, parce que vous avez un handicap, parce que vous avez un problème de maladie ou quoi que ce soit, là, on doit totalement vous aider. Et nous, j'ai l'impression qu'on fait les choses pas dans le bon sens ou pas dans le bon endroit.
Vous n'êtes pas pour le revenu minimum universel pour tout le monde, clairement,
non.
Valérie Namias.
Non, clairement non. Non, je ne le suis pas. En revanche, je suis pour l'aide à... Une personne vient nous voir et je vais lui dire « Ok, qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie? Où tu en es? Quelles sont tes situations ?» La personne va décrire sa situation et on va essayer de faire en sorte de lui trouver... Alors vous allez me dire « On peut pas, on est 56 millions, enfin je veux dire 40 millions d'actifs, on peut pas faire du cas par cas. » On pourrait, par les associations, par les mairies, par tout ce qui est en relation directe avec les citoyens. Oui, on pourrait faire en sorte d'avoir... Et puis, par les aides que nous pouvons mettre en place et par les structures existantes. Vous savez combien de structures il existe ? Alors, je reviens sur le cas de mes entreprises. Combien de structures il existe sur Paris qui font un travail incroyable, qui sont méconnues du grand public et qu'on pourrait mettre en valeur, valoriser pour faire en sorte que les gens bien, puissent faire peut-être des crédits à un taux minime ou puissent développer leur entreprise dans des incubateurs ou autres. Que ceux qui connaissent ont la possibilité d'ouvrir ? Non. Faisant en sorte que tout ça puisse être accessible au plus grand nombre.
De la même manière, certaines aides sociales ne sont pas connues des personnes qui pourraient en bénéficier.
Exactement. Certaines aides sociales ne sont pas connues, ils pourraient en bénéficier, ou d'autres sont un peu trop connues et un peu trop utilisées. Là aussi, faisant en sorte d'avoir des garde-fous et de vérifier quand une personne est au chômage depuis trop longtemps, c'est soit que, je vais être directe, mais le Pôle emploi n'a pas fait son travail. Je m'excuse. Alors après, il peut y avoir des circonstances, maladies, difficultés. Je mets tous ces cas à part. Mais quand une personne a intellectuellement ce qu'il faut, deux jambes, deux bras, et encore, même des personnes en situation... Vous savez, des personnes en situation de handicap font beaucoup plus que des personnes en situation où, on va dire, j'aime pas le mot normal parce qu'ils sont tout le monde en situation meilleure, mais voilà, une personne où tout ce qui... À partir du moment où vous avez envie d'y aller, donnons aux gens les moyens d'y arriver. La France n'est pas dans cette situation-là.
À l'origine, il était prévu un cinquième thème de débat, l'immigration. Finalement, le sujet a été retiré. Le gouvernement a eu raison de ne pas ouvrir la boîte de Pandore sur cette question de l'immigration et de l'identité.
Si je reprends les thématiques évoquées, vous avez parlé de transition écologique, extrêmement important. On n'est pas conscient. Moi, j'ai un ami qui travaille dans ce sujet-là et qui me dit « tu ne peux pas imaginer » ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire on est en train de... Réellement, après vous allez me dire, bon, ça fait les grands sujets grandiloquents qu'on écoute dans la voiture, ça veut rien dire, mais c'est une réalité. On est en train de détruire la Terre pour nos enfants, nos petits-enfants. On est en train, au niveau des espèces qui sont en voie de disparition, au niveau de l'air, de l'oxygène, de l'eau, de l'énergie. Si la conscience, elle est en chacun de nous, parce que je vois autour de moi, on essaie de faire du recyclage à notre niveau, mais je pense que c'est un mouvement beaucoup plus important qu'il faut mettre en place sur l'économie, par exemple, circulaire. C'est-à-dire que c'est un grand coup de pied qu'il faudrait vraiment mettre dans toutes les institutions et de dire, attendez, c'est ça et c'est no choice. Mais je trouve qu'on est trop fébrile. Donc c'est bien, c'est un thème intéressant. La citoyenneté aussi, c'est intéressant parce que des valeurs nous manquent. Le respect. Où est le respect ? L'éducation. Ce sont des valeurs que nous n'avons plus. Le respect des plus âgés, c'est pour ça que je fais un petit aparté. La CSG sur les retraites, non. Totalement contre. Mais c'est même pas 2000 ou 3000, c'est que tu ne touches pas aux retraites. En revanche, quand vous avez des retraités qui sont en pleine forme et qui ont envie de donner du travail ou de l'énergie, faisons en sorte qu'ils ont la possibilité de travailler. C'est encore très limité. Bon, en tout cas, j'extrapole sur les seniors, mais la citoyenneté, excellent sujet à revoir aujourd'hui, surtout ce que j'ai dit au départ sur l'engagement. Vous avez parlé de deux autres sujets.
Voilà, qui étaient l'organisation de l'État et la démocratie, et puis la fiscalité.
Ça aussi, ce sont d'excellents sujets. Maintenant, ce qui est important, c'est de donner les informations pour qu'on puisse en discuter. Parce que si vous ne donnez pas aux personnes les moyens de pouvoir agir et de pouvoir donner leurs idées, on va avoir encore des discussions de café de comptoir qui n'ont pas de sens. Il faudrait que quand ils demandent tout ça, ils mettent des fiches d'informations très factuelles pour expliquer aux gens ce en quoi, quel est le sujet attendu et qu'est-ce qu'on attend comme information ou comme... comme avis, voilà, que les gens sachent et qu'ils aient l'information. Sur l'info-immigration, oui et non. C'est la boîte de Pandore si c'est vu d'une façon extrême. Malheureusement, aujourd'hui, on entend un peu tôt nos extrêmes, que ce soit extrême gauche ou que ce soit extrême droite. Et que tout à l'heure, on n'a pas fini sur la partie négative des Gilets jaunes, c'est toute cette partie-là, c'est-à-dire tout ce qui a été massacré dans le 17e, mais on y reviendra peut-être en deuxième partie d'émission, mais tout ce qui a été cassé, toute cette façon de faire des Gilets jaunes, pour moi, je me suis lâchée. De ce mouvement à partir de cette violence. Et malheureusement, cette violence, elle se voit sur les réseaux sociaux, elle se voit... La parole n'a plus de retenue. On n'a plus de retenue. Et donc, du coup, le sujet immigration, pourquoi pas ? Mais si on met un encadrement et de dire, attention, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour faire du racisme, on n'est pas là pour mettre le doigt sur ça, on n'est pas d'accord. On est là de dire, comment vous voyez l'immigration de demain ? Sachant que l'immigration, elle est sociale, mais elle est aussi sur les problèmes de pollution. Vous allez avoir une immigration si dans un pays il n'y a plus d'eau. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est un vrai sujet de société. Que veut-on de notre pays demain ? pour nos enfants. Que devient la France demain? La France fait partie des 5 puissances mondiales. Est-ce qu'elle le sera encore avec un taux d'endettement aussi important? Est-ce qu'elle le sera encore avec un niveau, avec des aides sociales aussi importantes? Est-ce qu'elle le sera encore si on n'aide pas nos entreprises, des plus petites aux plus grandes, à se développer?
L'invité de Pluriel est Valérie Namias, conseillère de Paris, membre du groupe UDI, élue du 17e arrondissement. On se retrouve dans quelques instants.
Pluriel, animé par Loïc Barrière.
Retour sur le plateau de Pluriel. Nous sommes toujours en compagnie de Valérie Namias, conseillère de Paris, membre du groupe UDI. Vous êtes élue du 17e arrondissement, conseillère déléguée à l'innovation publique et à l'accueil des nouveaux habitants, par ailleurs chargée du conseil de quartier des Batignolles et de Cardinet. Alors, on a évoqué très rapidement les exactions commises dans Paris par... en marge des manifestations des Gilets jaunes. Votre arrondissement a été l'un des plus touchés par ces violences.
Tout à fait, tout à fait. Le 8 décembre notamment, je vais y revenir. Sur ce sujet, je voudrais quand même mettre le point sur le rôle de l'État. Vous avez donc un mouvement qui se met en place, les Gilets jaunes, et qui explique comme quoi ils vont venir défiler sur Paris parce qu'ils ont des revendications à faire. Comment on peut se permettre de leur laisser la place des Champs-Élysées? Alors me dire, il faut bien qu'ils défilent quelque part, mais qui est une comment ils ont pu avoir accès à l'Arc de Triomphe? Comment, dès le premier samedi, enfin ou même le deuxième, c'était le premier décembre, comment on a pu aussi mal sous-estimer le nombre de personnes et ne pas, au tout départ, où ils étaient une trentaine ou une quarantaine de casseurs, ne pas avoir pris les mesures tout de suite? C'est-à-dire que tout de suite, ces 30 ou 40 personnes qui ont cassé, on les arrête et on fait un point. Mais jamais il n'y aurait eu une telle propension par la suite si dès le départ on avait pris les bonnes mesures.
C'est la première fois qu'il y a une manifestation sur les Champs-Élysées. D'habitude, les Champs-Élysées, c'est pour les manifestations de joie, défilé du 14 juillet, la France championne du monde. Les Champs-Élysées, traditionnellement, on ne revendique pas sur cette avenue.
C'est très intéressant ce que vous venez de dire, Loïc. C'est très intéressant parce que ça prouve d'autant plus le mal français. C'est-à-dire que vous avez raison, c'est l'Arc de Triomphe. Et les Champs-Élysées, ce qui sous-entend au sens étymologique du terme, le paradis. C'est-à-dire que là où on a le point de victoire et de joie, c'est cristalliser la haine, la cassure et le rejet des institutions, du président, de toute et de la République au global. Parce qu'on a touché quand même aux soldats inconnus. Enfin, moi, ça m'a profondément choqué. On a touché à nos institutions. Comme je vous l'ai dit précédemment, où est le respect? Alors, c'est ça où c'est le côté vraiment les dérives de ce mouvement qui n'a pas su être retenu parce qu'il n'est pas cadré et parce qu'il n'y a pas une personne
appelez,
à sa tête.
Vous appelez les Parisiens à faire leurs achats de Noël à Paris plutôt que de faire des achats en ligne puisque là les commerçants ont été durement touchés par ces violences.
Alors oui, et là je vais mettre en valeur Geoffroy Boulard, maire du 17e, qui a eu une excellente initiative avec un communiqué sur aidons nos commerçants et venez, n'achetez pas sur les réseaux ou ne vous facilitez pas la vie, au contraire, facilitez un peu la vie de votre environnement et venez, déplacez-vous, surtout que ce soit sur le 17e, la rue de Courcelles, l'avenue des Ternes, où ils ont été quand même très durement touchés. Le 8 décembre, ça a été vraiment incroyablement impressionnant. Et là où je voulais en venir, c'est que quand vous avez des personnes qui viennent de la province pour dire oui, les difficultés que nous vivons, mais vous croyez que tous les commerçants qui ont été touchés ne vivent pas les mêmes difficultés? Les difficultés de pouvoir d'achat, les difficultés au quotidien pour pouvoir tenir dans le commerce. Certains, j'ai l'exemple réel d'un qui était sur la rue Kléber qui a décidé de tout arrêter. C'est-à-dire qu'il a 50 ans, il a dit l'assurance ne me remboursera qu'à 30% de tous les impacts que j'ai eus, je ne peux plus rien faire, j'arrête tout. qu'est-ce qu'il va devenir, ce monsieur?
Et la disparition des commerçants, c'est aussi la vie d'un
quartier.
C'est la vie,
mais c'est évidemment.
Qui est profondément modifiée. Après, on se plaint de ne pas trouver des commerces de bouche.
C'est très paradoxal parce qu'ils se sont plaints et ils ont attaqué le cœur de leur plainte. C'est-à-dire que là, il y a eu un chômage technique qui a été énorme. Il y a eu une économie qui, de par les réparations des travaux, qui est équivalent à plusieurs millions. Mais c'est surtout aussi l'impact économique de tous ces samedis. Je vous rappelle, vous le savez, on est à quelques jours de Noël quand même. C'est un moment festif, un moment de joie partagée pour toute une nation. Ça fait partie de nos traditions en France. Et vous faites, c'est le moment où on essaye d'acheter à minima en fonction de ce que l'on peut acheter. Comment on a pu en arriver à cette déflagration-là? Alors, évidemment que je réitère l'appel, hein, vraiment, allez-y, allez vous promener, faites vos achats, quels que soient les commerces où vous pouvez aller, mais allez-y, faites en sorte de montrer que vous êtes, on fait partie de tout un ensemble et on est tous liés les uns les autres, réellement. C'est-à-dire que si l'économie locale fonctionne, c'est tout un ensemble qui fonctionne, les restaurants, les cafés, les commerces. Donc allez consommer et allez acheter de vos cadeaux dans les commerces du 17e arrondissement, entre autres.
Valérie Namias, les élections municipales auront lieu en 2020. Quels seront les enjeux de ce scrutin pour Paris?
Ah, mais les enjeux sont primordiaux. Même si j'ai écouté dans les doléances des Gilets jaunes le trop grand problématique de la centralisation en France, et ils ont raison. Mais après, c'est pas à moi de juger, je suis élue locale, je suis pas parlementaire ou ministre. Mais évidemment qu'il y a un vrai sujet sur lequel l'État doit travailler, c'est cette décentralisation. Mais hormis ce sujet, reparlons de Paris en tant que conseillère de Paris. Ces élections sont primordiales pour Paris. Vous avez une maire qui arrive à la fin, c'est-à-dire qu'elle est sans batterie, sans essence, si je puis me permettre ce jeu de mots par rapport à une personne qui est anti-voiture. Je veux dire, comment elle est arrivée au bout du bout, quand vous voyez que son premier adjoint l'a quitté, son adjoint Mao Péninou l'a quitté service. Enfin, je veux dire, l'ensemble des gens qui l'accompagnaient est en train de la quitter au fur et à mesure. Elle est épuisée, elle est à bout de ce qu'elle pouvait proposer. Alors, elle est en train d'essayer de rebondir sur la problématique des gilets jaunes. Je trouve ça un peu maladroit. Mais ce qui m'embête, c'est qu'elle est dans un système de clivage permanent. C'est-à-dire que ça a été sa façon de faire jusqu'à aujourd'hui, c'est cliver au sein de la société, les riches, les pauvres. Mais qui sont les riches? Qui sont les pauvres? Comment vous pouvez parler ainsi? Elle est en train de cliver sur les services. Elle est en train de cliver sur une organisation de gestion. Elle est clivante. Et nous, au groupe UDI Modem, on fait en sorte, à notre niveau, en tant que groupe centriste, d'essayer d'amener, sur certains points, un équilibre, un consensus, faire en sorte que les choses puissent avancer. Parce que quand vous clivez, vous existez, mais vous ne faites pas avancer. Et c'est la difficulté d'un politique, c'est ne pas de regarder sa propre carrière personnelle ou ses ambitions personnelles, c'est de regarder l'ambition collective. Alors après, il y a les mots qu'on vient de dire à la radio, qu'on vient de dire à la télévision, qu'on vient de dire en séance du Conseil de Paris, et la réalité. Et la réalité, c'est qu'elle est clivante. Elle est absolument adorable quand on la rencontre, vraiment, elle est vraiment très sympathique, c'est une personne adorable, mais dans les faits, et au Conseil de Paris, elle est maîtresse d'école, elle est péremptoire et elle n'écoute pas. Elle n'écoute pas.
Et donc la question de la gouvernance, ce sera important. Le prochain maire ou la prochaine maire de Paris devra être plus à l'écoute, notamment des maires d'arrondissement.
Alors, plus à l'écoute, c'est un fait. Des maires d'arrondissement, c'est même un autre sujet. Ça a été une demande qui a été faite. Alors, nous n'avons pas, nous, à l'UDI, de maire d'arrondissement. Moi, je suis dans une mairie avec qui ça se passe vraiment très bien.
On a
vraiment
Les
Républicains, Geoffroy Boulard, avec qui j'ai une très, très bonne relation. Alors, je pense que nous avons une bonne relation parce que tous deux, nous avons une activité professionnelle à côté, ce qui fait qu'on a une façon de travailler extrêmement pragmatique et efficace. Donc, on ne rentre pas dans des sujets politicaux ou politiciens. On est vraiment dans un souci d'efficacité au quotidien et puis on est au plus près des
alors,
gens.
La difficulté pour les maires d'arrondissement, c'est que
leur pouvoir
ne sont pas étendus. Il y a beaucoup de sujets.
Vous rendez compte que
je crois que, par exemple, la question des ordures, des déchets, dépend de l'hôtel de ville.
C'est le premier sujet. Vous vous rendez compte que le premier contact, on n'en a pas parlé, mais Macron a voulu enlever tous les corps intermédiaires, etc. Mais au contraire, je veux dire, les corps intermédiaires intelligents, ils sont non seulement à laisser, mais à favoriser. Parce que ce sont les premiers contacts, c'est nous, les élus de terrain. Et le maire, Geoffroy Boulard, maire du 7e, est un élu de terrain. Et donc, il est au quotidien, vraiment, pour être à l'écoute. Mais quand vous avez des doléances en permanence, les gens peuvent se plaindre de divers sujets, comme de la propreté, et que vous ne pouvez plus dire « c'est pas moi, c'est l'autre », mais moi qui suis dans le domaine professionnel, si on m'appelle et qu'un client et je lui dis « c'est pas moi, c'est l'autre », mais je suis viré automatiquement. Et on n'est pas viré quand on est politique et on peut se permettre de dire ça. Non, on ne devrait même pas avoir à dire ça.
Vous êtes en train
de
nous dire que s'il y a un problème dans une rue proche de la mairie du 17e arrondissement, il doit en référer à l'hôtel de ville.
Exactement.
Et si ça ne se produit pas,
nous sommes dépendants.
Si on n'améliore pas la situation, l'habitant du 17e a le sentiment que c'est vous qui ne faites pas votre
Alors,
travail.
La chance qu'ils ont dans le 17e, c'est qu'ils ont des élus très... qui prennent des initiatives. Voilà. Je répète un peu ce mot, mais ça sera un peu le mot fort qu'il faudra retenir de cette intervention.
Il y a une application qui a été créée récemment, je crois,
magnifique,
par
cette application, d'ailleurs,
la mairie du 17e arrondissement, pour remonter les incivilités, les problèmes de
C'est une application qui a été... Alors, il y a différentes applications. Il y a une application d'abord dans ma rue, qui a été créée par un élu d'ailleurs de la mairie de Paris, que je connais très bien. C'est une excellente application. Vous faites une photo, vous envoyez en disant « attention, il y a un problème de propreté ». Et les services de Paris, normalement, devraient, c'est un peu lent, d'ailleurs j'ai fait un vœu pour dire « accélérer un peu », parce que c'est pas normal que quand vous mettez une photo, ils réagissent qu'au bout d'une semaine. Si vous voulez utiliser les réseaux sociaux, il faut aller beaucoup plus vite. Mais il y a une application qui s'appelle « Dans ma rue » qui a été mise en place pour les services de propreté par l'hôtel de ville. Il y a une application pour les problématiques de rats, qui sont vraiment qui ont envahi Paris, qui a été mise en place par une initiative locale, personnelle, du maire Geoffroy Boulard, et d'ailleurs qui a été repris par plusieurs autres mairies. Mais je reviens sur qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'élus locaux. Nous avons un effet de levier. Donc, je vais vous donner un exemple très précis. Sur la rue Rostropovitch, qui n'est pas loin de vous, hein, qui est juste en face, sur la nouvelle ZAC Batignolles, vous avez un problème de collecte pneumatique. Alors, quand je dis problème collecte pneumatique, c'est pas juste. Vous avez de la collecte pneumatique qui a été mise en place. Parfait, c'est une nouvelle innovation sur tout Paris.
Alors, un petit arrêt là pour comprendre ce que ça veut dire.
Alors,
c'est
la collecte pneumatique,
c'est
assez magique, cher parisien. Et j'espère que ça pourra être étendu. Vous mettez dans des réserves, on va dire, en bas de l'immeuble, au milieu de la rue, vous avez des bacs. Vous entrez vos poubelles. Alors, soit ce sont des bacs qui sont spécifiques, c'est-à-dire carton, papier, ou soit c'est des bacs qui retiennent tout contenu de poubelle. Vous rentrez ces bacs à l'intérieur et ils sont automatiquement aspirés, à plus de 60 km/h d'ailleurs, par des tuyaux souterrains et ils arrivent directement à la déchetterie donc, où ils sont triés.
Donc là, c'est plus des camions qui viennent les chercher, ça se fait de manière automatique.
Exactement. Alors après aussi, il y a des camions qui peuvent se rajouter pour tout autre type, pour le verre ou pour autre type de déchetterie, etc. La mise en place de ces collectes pneumatiques est un premier, donc c'est une première. Et pour l'instant, ça ne fonctionne pas aussi bien que l'on l'espérait. Alors, problème de calibrage, problème parce qu'il y a beaucoup de personnes qui emménagent d'un coup. Tous ces sujets peut-être n'ont pas été assez anticipés. Le fait est, c'est que ça ne marche pas. On a vu avec les services sur le plan local, ils sont à l'écoute hein, parce que le maire organise une fois par mois des réunions avec eux pour faire en sorte d'avoir une bonne relation avec eux, même s'il n'est pas leur responsable direct, il n'est pas dans l'exécutif sur ce sujet-là, mais ils sont à l'écoute. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un vœu sur ce sujet au Conseil de Paris pour défendre et faire en sorte qu'il y ait une action sur la fréquence de nettoyage de cette rue. Ça a été entendu par l'adjoint qui est venu voir directement, qui est allé voir aussi le maire pour lui dire « j'ai bien entendu ». On va agir.
Donc c'est ça l'effet levier des élus locaux.
On utilise les moyens que nous avons.
Mais
si on n'en a pas, on en prend d'autres.
Ce que vous souhaitez après cette élection municipale, c'est que les maires d'arrondissement puissent agir directement sur leur arrondissement.
Je vais vous dire, si vous avez confiance en vous, vous donnez confiance aux autres et vous laissez faire les autres. Est-ce un manque de confiance d'une mairie de gauche de ne pas donner assez de pouvoir aux autres mairies ? Sans doute. Moi, je me dirais, alors après, je vous dis ça, mais je n'ai pas de prétention à me présenter maire de Paris. Donc, je le fais de façon très à l'aise. Et on pourra en reparler, mais il y a plusieurs candidatures qui sont en train de se mettre en place. On est en veille au groupe UDI Modem. On est quand même plus intéressé par une candidature de Pierre-Yves Bournazel qui correspond réellement à ce qu'on attend d'un futur maire de Paris. Donc, on est très à l'écoute. On est en train de voir sa façon d'agir, sa façon de voir... de voir en fait son programme, hein, ce qu'il est en train de préparer pour la suite. Et ça nous paraît pour moi le plus consensuel sur cette droite, cette centre-droite et ce centre, on va dire, qui peut s'organiser sur un renouveau sur Paris. Il faut un Paris autrement. C'est-à-dire que la ville ne peut plus être vue comme elle a été faite sur les années 70, 80, 90. On est dans cette ère où tout va beaucoup plus vite, peut-être beaucoup trop vite, et dans une ère où Madame le maire et son équipe ont tout mis en place par la contrainte. On ne veut plus de voitures, c'est la contrainte, on ferme tout. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut agir. Si on ne veut plus de voitures, on fait en sorte qu'il y ait un service de transport urbain collectif, peut-être plus adéquat, peut-être plus intelligent. On fait en sorte que tout le monde s'y retrouve. La contrainte, oui, mais limitée. Là, on n'a été que dans la contrainte.
Alors, les habitants de votre arrondissement, Valérie Namias, sont concernés par les problèmes que rencontre la ligne 13 depuis des années. La ligne 14 est en train d'être prolongée. Le chantier a tout de même pris beaucoup de retard. Mm-hmm. Le délai que vous espérez, c'est une mise en service en 2020 ?
Oui, juillet. Juillet 2020. Alors, très à l'écoute hein, sur la mairie du 17e, sur ces sujets. Moi, je suis au conseil d'administration, alors pas de la RATP, hein, de Paris Batignolles Aménagement, donc, qui s'appelle d'ailleurs maintenant Paris et Métropole Aménagement, où tout ce secteur de la ZAC Batignolles a été donc aménagé. Oui, là, plus de retard n'est accepté ou n'est acceptable. Même si, évidemment, il y a des contraintes techniques qui font que, mais ils auraient pu être anticipés, comme ça a été fait d'ailleurs sur le RERE, sur la porte Maillot. Donc, évidemment que le maire, encore une fois, est très à l'écoute sur ce sujet, et nous-mêmes, élus locaux, très à l'écoute. Donc, là, on a entendu dire qu'il y aurait peut-être une dérive septembre sur 2020. Non, c'est juillet 2020 et pas autrement.
Vous seriez favorable, Valérie Namias, à la gratuité des transports en commun à Paris, un sujet auquel réfléchit Anne Hidalgo, et on imagine que ce sera un des sujets qu'elle portera quand elle sera candidate.
Alors, je vais être très directe, non. Non, mais vraiment pas. Encore une fois, il y a des études à faire sur du cas par cas et sur des sujets peut-être à voir, sur les étudiants, sur peut-être des périodes, peut-être des moments ou des soirées, mais non, pas de gratuité parce que rien n'est gratuit dans la vie. Et on ne parle pas si nécessairement d'argent quand je dis rien n'est gratuit. C'est-à-dire, on peut revenir à mon sujet précédent, quand on te donne autant de droits et de devoirs, peut-être que toi, tu te dois de rembourser, entre guillemets, par des actes d'histoire, des actes civils, des actes de civisme, des actes d'entraide avec tes voisins. Rien n'est gratuit dans la vie, donc non, pas de gratuité.
Valérie Namias, vous nous avez dit tout à l'heure que votre engagement politique est très précoce, puisque vous avez commencé à militer à l'âge de 18 ans, et vous avez fait allusion tout à l'heure à la présence de nos stagiaires de 3e qui ont passé une semaine d'observation à Radio-Orient, et ils vous ont écouté depuis le début de cette émission. À 14 ans, on n'a pas le droit de vote. Pour autant, c'est un âge où on peut exercer sa citoyenneté.
Alors oui, tout à fait. Je rappelle que je me suis engagée très rapidement, peut-être pas nécessairement en tant que militante, mais en tant que personne active. Alors je ne sais pas si ça a un sens que vous dites, mais moi j'étais dans ma notion ou dans ma vision ou réellement dans l'action. C'est-à-dire que quand je me suis aperçue que autour de moi, dans la ville où j'habitais de province, il y avait
Toulon
exactement, il y avait une problématique que j'étais en mesure de pouvoir régler parce que j'étais étudiante. Eh bien, j'agissais, je réunissais des étudiants, j'ai appelé la mairie, le conseil général du Var, j'ai appelé et je faisais en sorte de pouvoir régler. J'y arrivais pas, mais je ne pouvais rester inactive devant certaines situations. Donc, je pense qu'il faut donner confiance à nos plus jeunes. C'est ce que je fais d'ailleurs avec mes enfants. Je suis très à l'écoute de ce qu'ils me proposent et une idée n'est jamais idiote. Il faut l'écouter et après, il faut le guider, non pas l'influencer, mais le guider, faire en sorte qu'il grandisse, qu'il devienne même plus grand que toi, c'est un peu l'objectif. C'est pour ça que je reproche un peu à la nation d'avoir un peu endormi le peuple en disant « Attendez, on va... non, faisons grandir, ça ne pourra que nous apporter, ça pourra que rejaillir sur nous. » Et moi, je pense qu'on peut tout à fait... Alors, baisser à 14 ans le droit... Non, là, on serait ridicule parce qu'il faut quand même qu'à l'école, ils puissent apprendre l'histoire, ils puissent apprendre la citoyenneté. Il faut d'ailleurs revoir un peu... certains programmes où je pense que ça manque à l'école.
Donc on garde le droit de vote à
minima,
18 ans.
Oui, à minima.
Mais la citoyenneté, c'est pas seulement voter.
Exactement. La citoyenneté, c'est pas voter. Par contre, laisser comme il existe hein, des conseils municipaux de la jeunesse, permettre à aller dans des écoles et leur demander pas nécessairement leur avis politique. On te demande pas si tu votes à gauche ou à droite. C'est pas notre sujet. On te demande qu'est-ce que tu aurais comme idée sur ce sujet-là. Par exemple, ça manque d'espace vert, mais il faut pas oublier ça, c'est une parenthèse que je fais. Quand on a des demandes, moi qui fais de la politique, je m'en suis aperçue. Les gens ont des demandes et des doléances, que ce soit les gilets jaunes ou autres. Il faut comprendre comment ça se passe de l'autre côté, au niveau des services, comment ça fonctionne. Et des fois, moi-même, j'ai souvent des doléances. Et d'ailleurs, à la mairie du 17e, ils en peuvent plus parfois en disant « arrête parce que c'est trop ». Et des fois, quand je viens leur demander des choses, d'eux-mêmes, ils m'expliquent comment ça fonctionne, comment la machine municipale fonctionne. Et je m'aperçois que ce que je demande est peut-être trop ou que ça coûterait finalement trop d'argent pour le bénéfice. Et donc, du coup, je stoppe. Et c'est ça aussi qui serait intéressant, c'est que quand les gens ont des doléances, ils ne sont pas conscients de ce que ça peut coûter à l'État, aux citoyens, à nos impôts, sachant qu'il n'y a que 50% des gens qui payent l'impôt. Voilà. Donc, c'est bien aussi de dire « parfait, mais soyez responsable de ce que vous demandez ou ce que vous attendez ».
Merci Valérie Namias d'avoir été l'invitée de Pluriel, notre dernière invitée de l'année. Vous voulez ajouter quelque chose ?
Très rapidement, nous avons un nouveau cinéma qui ouvre sur le 17e arrondissement et c'est important de le valoriser, le 7e Batignolles qui se trouve 86 rue Rostropovitch. Je ne fais pas une publicité nécessairement, mais quand même ça vaut le coup jeter un coup d'œil en famille ou entre amis. Mais quand on a des beaux lieux qui s'ouvrent comme ça, qui soit public ou privé, ça me fait toujours plaisir de les valoriser.
Merci Valérie Namias et je vous souhaite ainsi qu'à tous nos auditeurs d'excellentes fêtes de fin d'année.
Merci à vous tous aussi, très bonnes fêtes.
Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.